chers auditeurs, bonjour. Faisant suite à nos émissions avec Annie Bellis, où nous découvrions la musique grecque et romaine ancienne, nous partons aujourd'hui à la découverte du chant grégorien. Le chant grégorien, vous avez entendu parler, vous en avez entendu, et aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir explorer ce vaste sujet avec Frédéric Rentière.
Bonjour. Bonjour Michel.
Alors Frédéric Rentière, vous êtes à la fois praticien et théoricien, si je puis dire. Vous êtes chanteur, chef de chœur, mais en même temps chercheur. Vous avez été formé en direction de chœur, en formation musicale au CNR de Paris, CNR d'Aubervilliers, avant d'intégrer la classe du chant grégorien au Conservatoire de Paris, CNSM de Paris.
Oui, tout à fait.
Mais vous avez aussi poursuivi un travail vraiment de recherche, d'abord sous forme d'un master à Paris-Sorbonne, et je crois que vous êtes en train de terminer une thèse.
Oui, sur le pouvoir du chant grégorien.
Alors, le pouvoir du chant grégorien, on va voir s'il va s'exercer sur nous.
On va voir, oui, justement. C'est
aujourd'hui, lors de l'émission suivante. En tout cas, voilà, cette pratique, parce que vous avez aussi fondé un ensemble que vous dirigez.
Oui, Voxinrama, oui.
Voxinrama, qui rappelle un texte de Matthieu, hein, qui reprend lui-même un texte de Lamentation de Jérémie.
Tout à fait. Oui.
Vous vous intéressez, je crois, d'ailleurs au phénomène du chant liturgique en général, parce qu'il me semble que vous avez organisé un colloque, une journée de recherche en tout cas, sur les traditions vocales, culturelles, des monothéismes.
Tout à fait, oui. Donc les trois traditions, christianisme, judaïsme et islam.
D'accord. Et donc, je crois qu'au cours des 5 émissions que nous préparons pour vous, chers auditeurs, on aura l'occasion d'entendre plusieurs extraits, justement, de votre ensemble Voxinrama. J'aimerais énoncer d'abord les titres de ce vaste parcours que nous allons entreprendre. Pourquoi psalmodier ? Vous verrez ce que cela veut dire. Le chant grégorien a-t-il un pouvoir ? Lors de la 3e émission, nous parlerons du chant grégorien à deux voix. Est-ce que le chant grégorien existe à deux voix ou c'est une seule voix seulement ? Pourquoi noter le chant grégorien ? Et enfin, pour la 5e émission, pourquoi pratiquer le chant grégorien aujourd'hui ? Je suis sûr que vous aurez de nombreuses auditrices et auditeurs qui se convertiront en chant grégorien. Mais j'aimerais commencer par une question toute bête. Pourquoi avez-vous choisi le chant grégorien ?
J'ai commencé en fait la musique avec finalement le répertoire du 19e siècle et du 20e siècle, comme beaucoup de musiciens, puisque c'est le répertoire qu'on aborde, qu'on étudie au conservatoire. Mais j'ai toujours trouvé que, notamment étant chef de chœur, j'ai beaucoup pratiqué le répertoire de musique sacrée, et j'ai toujours trouvé des origines antérieure au répertoire que je pratiquais, ce qui m'a amené à la musique baroque, au protestantisme, au luthéranisme, aux fameux chorales qui m'ont longtemps fasciné. Et en arrivant au choral, je me suis rendu compte qu'ils reprenaient souvent des hymnes grégoriennes, des incipits d'anciennes grégoriennes. Et c'est ce qui m'a amené finalement peu à peu à remonter l'histoire. Et quand j'ai découvert finalement, j'ai vu pour la première fois dans ma vie des manuscrits de chants grégoriens, là j'ai senti qu'effectivement je me rapprochais de l'oralité occidentale et c'est ça qui m'a vraiment fasciné.
Au fond, vous faites comme ces personnes qui cherchent un peu les origines de leur famille, qui remontent comme ça
jusqu'à
la généalogie pour comprendre leur propre histoire. Et je crois que
exactement ça.
Faire un retour sur le chant grégorien, c'est vraiment comprendre un vaste pan de la musique occidentale tout court.
Oui.
Parce que ce qui est intéressant, et j'aimerais que l'on parle un peu de ça aujourd'hui, c'est qu'une institution aussi noble et respectable que le Conservatoire de Paris, qui n'a rien à voir a priori avec une institution ecclésiale, a considéré que le chant grégorien, c'est un domaine artistique à part, pour ouvrir une classe, je crois que dans les années 80...
85, oui.
Oui, donc...
Loma Riving, oui, a ouvert une classe de chant grégorien.
Avec lequel vous avez étudié,
oui, avec qui j'ai étudié il y a quelques années, oui.
Donc on a considéré que c'est un peu comme les cantates de Bach, c'est-à-dire que c'est une musique qui vaut tellement en soi.
Une valeur autonome, effectivement.
Une valeur autonome. Oui. Mais vous, votre démarche, c'est d'essayer aussi de s'intéresser au contexte originel. Et alors, pourquoi est-ce qu'on chante dans la liturgie au Moyen-Âge, Frédéric Rentière ?
Effectivement, si on se remet dans une démarche anthropologique, c'est-à-dire vraiment on veut revenir à qu'est-ce que c'était que ce chant grégorien, quelle place il prenait dans les rites, dans le vécu des hommes, puisque l'anthropologie, littéralement, c'est la science de l'homme dans ses pratiques et autant intérieure que extérieure. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est que le chant grégorien, justement, est un lien entre l'intériorité et l'extériorité au Moyen-Âge. Alors, pourquoi chante-t-on le chant grégorien ? C'est une question, en fait, que quand on est anthropologue, qui nous pose beaucoup de problèmes au début, parce qu'il n'y a pas de réponses concrètes qui sont données, c'est-à-dire aucun commentateur va dire voilà pourquoi on chante le grégorien, pourquoi on chante ce répertoire et pas autre chose. Par contre, les réponses sont un peu partout, et la réponse vraiment la plus forte et qui revient sans cesse dans les commentaires, c'est qui n'est jamais vraiment sous forme de réponse, c'est la question du chant des anges. Oui. C'est-à-dire de la liturgie, fameuse liturgie angélique, qui est très importante dans le christianisme, mais pas que dans le christianisme. J'ai pu me rendre compte que dans beaucoup de religions, il est toujours question de ça. Et alors la question, c'est comment faire, un, entendre ce chant angélique de manière humaine, avec la voix humaine, premier point. Et deuxième point, comment, et ça c'est la question la plus importante du canon de la messe, comment rentrer en communication avec le chant des anges?
Alors ça c'est un point très intéressant parce que, à ma connaissance, il y a un seul passage, si on exclut le livre d'Apocalypse, un seul passage où on nous dit, dans le Nouveau Testament, que lors de la liturgie humaine, enfin lors de la célébration ecclésiale, il y a une sorte de participation, une présence des anges. C'est dans la première épître aux Corinthiens. Oui. Il y a un petit verset, bref, à cause des anges, voilà, il faut qu'une certaine tenue dans les assemblées. En revanche, c'est une thématique extrêmement présente dans la littérature intertestamentaire, et notamment à Qumran, où la liturgie céleste, le fait que la liturgie terrestre est un reflet de la liturgie céleste, c'est extrêmement présent. Évidemment, le livre d'Apocalypse magnifie cette thématique. Oui. Donc c'est intéressant de s'interroger, en effet, sur ses origines. Mmh. Mais est-ce que cette distinction entre le parler et le chanter que nous faisons très facilement aujourd'hui, est-ce que ça existait vraiment au Moyen-Âge?
Alors non, justement. Ça, s'il y a bien une chose dont on peut être sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas cette distinction pour la simple raison qu'on ne parlait jamais dans la liturgie, puisque la parole était le propre de la voix humaine, une voix corruptible, une voix corrompue, qui justement n'allait pas rentrer dans la symphonie des anges, puisque les anges produisent un chant qui est à la fois éternel, perpétuel, et qui est harmonieux par essence, de toute façon. Donc, justement, l'accroche la plus forte, elle est dans le canon de la messe, c'est-à-dire le rite eucharistique, qui était stabilisé dès le IIIe siècle chez les chrétiens, et qui, où il est bien dit dès le début, la fameuse préface qui a introduit le chant du Sanctus, chant donc adressé aux anges, où le prêtre dit bien qu'on chante avec les voix des anges. C'est-à-dire, c'est par l'intercession des voix des anges que nos voix, si elles sont suffisamment harmonieuses, vont atteindre le trône du Père. C'est la fameuse formule cum quibus qu'on retrouve au début du canon.
D'accord. Et alors, au fond, quelque part, vous nous dites que la conception du grégorien, c'est d'unir le divin à l'humain par le biais de la voix.
C'est de faire entendre déjà l'écho de ce chant angélique, et deuxièmement de pouvoir rentrer en communication avec, et surtout que la voix humaine soit suffisamment harmonieuse pour pouvoir monter avec le chant des anges, parce qu'en fait on est vraiment dans une relation de transport, c'est-à-dire que le transport de la voix doit être suffisamment digne, parce qu'il est question toujours de dignité finalement dans la liturgie médiévale, et pour être transporté par le chariot angélique finalement, par ce support angélique.
Alors, nous avons parlé beaucoup du chant. Est-ce qu'on pourrait entendre quelque chose?
Oui. Alors, justement, pour cette histoire d'écho entre terre, ciel, la fameuse mimésie, c'est-à-dire le terme grec qui est l'imitation, ni plus ni moins en latin, cette imitation qui doit avoir sans cesse lieu dans la liturgie, j'ai choisi un sanctus, justement, on parlait de la préface. Donc, ce sanctus qui, lui, est tropé. Alors, c'est un terme
drôle. Qu'est-ce
que ça
veut dire, tropé?
Ça veut dire farci. On dit souvent au Moyen-Âge sanctus farci, c'est-à-dire qu'on intercale dans le chant de sanctus des mélodies supplémentaires avec des textes qui commentent, qui racontent une histoire. Là, c'est un texte, en l'occurrence, c'est le sanctus tropé du livre de Saint Jacques de Compostelle, où il est question, justement, de la corruption d'Adam et d'Ève, et du fait que, justement, l'intercession des anges et du Christ va faire que leur voix, la voix va quand même monter. Donc on est vraiment dans la thématique de la mimésis entre voix humaine et évangélique. Et donc c'est l'ensemble Vox in Rama. J'ai pu faire cet enregistrement dans le CD Modulatio Divine Laudis, la modulation de la Divine Louange, qui est vraiment sur cette thématique-là.
Et cette partition, enfin, elle date de quelle époque à peu près ?
XIIe siècle, oui.
Donc nous écoutons le Sanctus Tropé du livre de Saint Jacques de Compostelle par l'ensemble Vox in Rama, dirigé par Frédéric Rentière.
Sanctus.
Entendons le Sanctus Tropae du livre de Saint Jacques de Compostelle, une partition du XIIe siècle, chantée par l'ensemble Vox in Rama, sous la direction de Frédéric Rentière, que j'ai la joie de recevoir dans le studio de Fréquence Protestante, et nous parlons du chant grégorien. Frédéric Rentière, est-ce que vous pourriez nous commenter ce que nous entendons ?
Oui, tout à fait, avec plaisir. L'enregistrement. On va d'abord entendre le Sanctus. Voilà. Donc là, on entend le Sanctus proprement dit. Donc le chant des chantres finalement qui adresse donc une triple louange au cœur des anges qui va ensuite la transmettre au Père. Donc on n'est pas encore vraiment dans le trope.
C'est d'abord l'humain qui chante, en fait.
Voilà, c'est l'humain qui chante et c'est l'ordinaire de la liturgie. C'est vraiment le moment du Sanctus.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir ?
Et ensuite, donc, on va voir le fameux trope, c'est-à-dire une prose, en fait, une poésie qui est textuelle, donc purement textuelle, qui va être rajoutée sur donc une nouvelle mélodie. Et à cette nouvelle mélodie répondra un écho angélique que je soulignerai.
D'accord. Dès qu'on entend deux voix, c'est que la voix des anges prend appui sur la voix humaine.
Exactement, elle prend appui, elle prolonge l'écho, et on a cette image du chant humain qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, donc là, le trope commence.
Donc un commentaire.
Un commentaire, on voit bien, il y a un texte. Et là, la réponse angélique qui prolonge
l'écho
humain. Donc on a vraiment un commentaire musical du Sanctus.
Sur une voyelle, en fait. Simplement.
Sur une voyelle, puisque effectivement, le chant des anges n'est jamais avec des mots.
Et oui,
ce n'est pas un langage, ce n'est pas une locutio humana, ce n'est pas une parole humaine.
Non, c'est magnifique.
Voilà.
Magnifique. Alors, voilà, nous avons entendu deux fois cet extrait. Et nous parlons donc du chant grégorien, mais j'ai envie de poser une question peut-être toute naïve. Pourquoi chant grégorien ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec Grégoire, le pape Grégoire, ou Grégoire de Nazianze, ou je ne sais pas ?
Oui, alors effectivement, l'expression chant grégorien n'est pas nouvelle. Elle suffit à résumer. Quand on dit chant, bon, ça ne veut finalement pas dire grand-chose, mais quand on dit chant grégorien, ça veut tout de suite dire quelque chose. Il y a un contenu très riche. Et effectivement, c'est un contenu qui fait référence à Grégoire le Grand.
Mmh.
Alors, comment cette chose a pu se faire ? C'est qu'à partir de l'époque carolingienne, on a cherché un patron, finalement, une tête à la tradition du chant de l'Église latine, qui souhaitait se différencier de la tradition byzantine. Et à ce moment-là, on a choisi Grégoire le Grand, qui est vraiment, on pourrait dire, le pape, qui est vraiment au centre des relations entre l'Église byzantine, la tradition byzantine et la tradition latine. Et c'était un pape qui était très sensible à la question de la dévotion intérieure, qui était très apprécié notamment en Angleterre, en Irlande, dans le nord de l'Allemagne, puisque son disciple Augustin de Canterbury a été un des premiers envoyés finalement en Angleterre pour convertir finalement les premiers chrétiens d'Angleterre. Et comme on le sait, tous les disciples de Charlemagne et les conseillers de Charlemagne étaient, notamment Alcuin, étaient d'origine irlandaise. Et donc, ils ont transmis à l'Europe carolingienne ce culte de Grégoire. Et c'est certainement eux qui ont suggéré, finalement, aux réformateurs carolingiens de baptiser le chant de l'Église, le chant grégorien, le chant de Grégoire. Donc, d'accord. Ça, c'est l'explication vraiment historique.
Mais est-ce qu'il y a... Là, on a entendu ce Sanctus avec l'écho des anges qui s'appuie sur une voyelle humaine. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de chanter la liturgie dans l'Église ancienne, dans l'Église latine ?
Oui, alors question très importante, mais les réponses du Moyen-Âge ne sont pas les réponses qu'on attend, nous, aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que nous, on part d'un présupposé vraiment moderne, très catégoriciel, qui aime bien les catégories, qui dit, voilà, à chaque type de chant, il va y avoir une façon de chanter différente. Donc, par exemple, l'hymne, on chantera de manière syllabique, mmh. chaque syllabe aura un son. Si on chante, par exemple, une pièce ornée, ce sera une façon de psalmodier différente, donc on l'appellera autrement. Eh bien, il ne s'agit pas du tout de ça au Moyen-Âge, puisque finalement, les deux genres qu'on va retrouver, c'est le genre de la lecture, la lecture en latin, et le genre de la psalmodie, le terme grec, le chant du psaume, littéralement, qu'on va retrouver. Pourquoi ? Parce que ce qui est important à l'époque, c'est le pouvoir intrinsèque du texte biblique. C'est-à-dire qu'il n'est pas question finalement de valoriser le pouvoir de l'artiste en lui-même. On n'est pas du tout dans une image de l'artiste avec des capacités vocales, même s'il doit en avoir. Elles sont certaines, elles sont d'ailleurs bien, bien précisées dans les conciles. Un chante n'est pas chante qui veut être chante. Mais c'est surtout le pouvoir intrinsèque de la parole et la façon de la rendre par une diction qui soit harmonieuse et une modulation. Alors, la modulation, c'est les ornements qu'on rajoute autour des mots qui, eux, ne doivent pas empêcher que le sens se transmette, mais doivent dégager de ce sens un affectus, c'est-à-dire un sentiment qui, lui, aura le pouvoir de convertir.
Au fond, c'est un peu comme une sorte d'illustration ou mise en valeur optimale, si je puis dire. Par exemple, tout ce qui peut appuyer, mettre en valeur, expliciter le texte est mis en œuvre, c'est ça ?
Alors, il y a effectivement l'idée d'expliciter, mais c'est encore plus fort que ça, puisqu'on est plutôt dans la notion de pouvoir antique, qui est plutôt l'idée de créer un effet, littéralement. L'affectus, l'étymologie d'affectus, c'est vraiment créer un effet sur la personne. Donc, cette parole biblique, elle doit sa vertu intrinsèque, qui est évidemment une vertu divine, elle doit se convertir en émotion et déclencher la prière. C'est le modèle idéal proposé par les commentateurs.
Mais alors, donc ces deux modes dont vous parliez, les deux modes de vocalisation, est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Oui, effectivement. Ces deux manières d'utiliser la voix qui très souvent se confondent. Mm-hmm. Alors, par exemple,
Est-ce qu'on peut déjà les énoncer ? Donc, le premier, c'est lecture, donc
voilà, lectio. Donc la lecture, effectivement. Mm-hmm. La définition la plus claire aujourd'hui de la lecture, c'est la définition que Isidore de Séville, un compilateur très célèbre à l'époque carolingienne, nous donne. Il dit que, en fait, c'est l'énonciation à haute voix du texte. C'est-à-dire que littéralement, il faut vraiment que chaque lettre, chaque syllabe retentisse dans l'acoustique et que sa compréhension soit parfaite, sans en dénaturer. Sans dénaturer le sens du récit, de l'histoire qui est racontée, en fait. Donc, c'est vraiment le premier genre.
Au fond, la visée des protestants à rendre le texte intelligible, bon, ils se préoccupaient plutôt de la langue que de la musique, mais justement, cette volonté de traduire le texte biblique dans une langue vernaculaire compréhensible, ça vise un peu le même but.
Ça vise le même but, tout à fait. Alors, il y a après les questions d'une langue unique, effectivement, dans l'Église catholique, qui était très importante pour la concorde, justement, de toutes les églises autour de la concorde.
L'universalité. La catholicité. Oui.
Exactement, voilà. Mais on retrouve dans les ordinaires, c'est-à-dire dans les déroulements de la liturgie ou dans les commentaires liturgiques, beaucoup de verbes pour décrire ça. Alors, on a le verbe dicere, dire. Mm-hmm. On a le verbe predicare, qui veut dire annoncer, finalement, dire devant. On a leggere, des fois simplement lire, et on a aussi prononcer parfois, c'est-à-dire le fait vraiment de projeter la voix devant, de psallere, donc psalmodier, et aussi orare, qui a un double sens, parce que ça signifie à la fois prier et parler avec la bouche.
Mais alors, comment concrètement ce mode de vocalisation, cette manière de chanter, si je puis dire, se manifeste ? Est-ce qu'on pourrait entendre un extrait qui nous dit cela ?
Alors, j'ai pensé à un extrait chanté par Philippe Ballois, extrait du CD de la Messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, par l'ensemble Gilles Binchois, dirigé par Dominique Vélard, où Philippe Ballois nous fait une lecture du livre de la sagesse sur le deuxième ton, qui, je trouve, est remarquablement, illustre très bien justement l'esprit médiéval de la lecture.
Lectio libri sapientiae, in omnibus requiem quaesimi et in hereditate domini moramur. precepit et dixit mihi creator omnium, et qui creavit me, requievit in tabernaculo meo, et dixit mihi. In Iacob in habita, et in Israele meditare, et in electis meis miterabices. Et sit in Sion firmata sum, et in Civitate sanctificata similiter equievi, et in Jerusalem potestas mea. Et radicat in populo honorificato, et in parte Dei mei hereditas illius, et in plenitudine sanctorum detensio mea.
Donc nous avons entendu la lecture du livre de la sagesse par Philippe Ballois, extrait de CD sur la messe Notre-Dame de Guillaume de Machaut par l'ensemble Gilles Binchois. Et je reçois Frédéric Rentière pour parler du chant grégorien. Donc c'est l'un des modes de vocalisation hein, dans le grégorien qui est la récitation. Frédéric Rentière, je voulais dire aussi une chose, je voudrais faire votre pub, parce que c'est vrai que c'est des questions très intéressantes et on a l'impression qu'on pourrait le travailler soi-même. Et je crois que vous organisez des stages du grégorien et notamment il y en a un très, très bientôt, du 14 au 16 mars à Valence.
Tout à fait. Oui.
Et puis aussi des stages en juillet en Ardèche, du 21 au 27, du 25 au 31 en août, du 25 au 31 août
oui,
en Savoie.
Oui.
Et je crois que pour tous ceux qui seraient intéressés par ces stages, est-ce qu'il faut être chanteur pour y aller ?
Non, alors ce sont des stages qui s'adressent. Le stage en mars s'adresse à des tout débutants. Le stage en juillet également. Le stage d'août s'adresse à des gens qui ont fait étudier un petit peu le chant grégorien, qui voudraient se perfectionner.
En tout cas, tous ceux qui seraient intéressés par cette information peuvent aller sur votre site, Frédéric Rentière,
Rentières, oui.
Voilà, .com. Voilà,
oui.
Il y a toutes ces informations, parce que c'est quand même très passionnant. On assiste à des services, on entend des choses, on est familier avec cela, mais on ne sait pas déchiffrer, savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. Et vous avez parlé aussi d'un deuxième type de vocalisation qui est peut-être plus spontanément associé à ce que nous appelons le chant grégorien,
oui.
Et qui est plutôt là... La psalmodie, c'est ça ?
Alors là, ce qu'on a entendu finalement, c'est une récitation, c'est une lecture. Alors il y a plusieurs termes.
Oui.
Il y a plusieurs termes qui finalement veulent dire la même chose, c'est-à-dire une lecture précise du texte avec qui rend parfaitement le rythme du latin et qui exprime un sentiment qui soit vraiment le juste sentiment du récit. Alors c'est déjà le chant grégorien puisqu'en fait on est vraiment dans la modalité, c'est-à-dire on a vraiment des corps de récitation et ces corps de récitation sont vraiment la base de la structure du chant grégorien. Le deuxième mode de vocalisation qui n'est pas très bien distingué à l'époque médiévale, mais qui pourtant est bel et bien là, on le voit dans les manuscrits, c'est la psalmodie ornée. C'est-à-dire que finalement, on passe d'une psalmodie qui est simple, qui est une simple lecture, à une psalmodie ornée, c'est-à-dire une psalmodie où il va y avoir une modulation qui va déborder et qui va être porteuse de sentiments qui vont déclencher la piété. Alors, cette thématique-là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle la prosopographie, c'est-à-dire on rentre vraiment dans l'histoire des personnages liés au chant grégorien.
Est-ce que concrètement, ça veut dire, si j'entends comme ça sans rien savoir, je dis voilà, tiens, ça c'est une jolie mélodie, et j'entends par exemple qu'il y a plusieurs sons sur une même voyelle ou une même syllabe.
Voilà.
Parce que ce qu'on avait entendu tout à l'heure, c'était plutôt un texte lu sur un ton assez droit, comme cela.
Voilà, donc la base est la même,
oui.
Mais après on va rajouter des ornements. Le chantre expérimenté, ceux qui étaient compétents, vont rajouter des ornements, alors qu'ils étaient chantés de manière extrêmement variée, puisqu'on le voit dans les manuscrits pneumatiques. On aura l'occasion d'en parler, je pense, dans une prochaine émission, la question justement de l'interprétation de tous ces signes, justement, qui montre bien qu'il y a un rythme à chaque fois unique pour chaque modulation.
Mais alors justement, vous nous mettez un peu l'eau à la bouche parce que nous allons parler du pouvoir du chant grégorien la semaine prochaine. Mais je crois que, au lieu d'écouter un extrait audio d'un CD préenregistré,
oui.
Vous nous offrez, Frédéric Rentière, une performance en direct, si je puis dire,
oui,
de ce deuxième mode de vocalisation, à savoir la psalmodie elle-même. Et
voilà.
Qu'est-ce que vous allez nous chanter maintenant ?
Alors, je vais vous chanter juste le début d'un trait, c'est-à-dire c'est une psalmodie ornée qui est chantée traditionnellement le jeudi saint.
Nous vous écoutons.
Domine. Mea. Et clamor meus a te.
Deus meus, psalmodiurne de la liturgie des rameaux.
Alors, excusez-moi, dominer, c'est dominer exaudi orationem meam.
Voilà, en direct en tout cas par Frédéric Rentière, que nous retrouvons la semaine prochaine pour parler du pouvoir du chant grégorien. Chers auditeurs, à la semaine prochaine.